Je suis Élie Estrelle, bienvenue dans le podcast Cœur de Michto, le prochain chapitre de la révolution féministe. Ici, je partage des hacks de Michto pour te rendre le love que tu mérites. Si t'es prête à transformer ta vie amoureuse en conte de fées féministes, on y va. Aujourd'hui, on sort les archives. Je t'avais partagé l'année dernière un épisode qui s'appelait Feuilleton romantique où je partageais une étape de travail qui n'avait pas abouti, où je planifiais de faire tout ce que je fais là sous forme d'un roman. Il se trouve que c'était pas la seule forme que j'ai testée pour ce projet et qui n'a pas abouti. J'avais aussi l'idée d'un podcast qui aurait une orientation un peu différente où je parlais de psychologie, où je parlais de maths. J'avais imaginé un nom, je m'étais dit que je pouvais appeler ce podcast La chatte de Schrödinger. Et ça me ressemble pas mal. En fait, quand j'ai peur de lancer quelque chose, je crée une version surcomplexifiée de ce truc-là où je rajoute 50 couches différentes comme une espèce de moyen de me protéger. Il en sort souvent des concepts assez what the fuck, qui sont pas inintéressants mais qui ont une grosse tendance à tourner autour du pot en rajoutant beaucoup d'autres choses, beaucoup de fluff, beaucoup de trucs superflus. Bref, la chatte de Schrödinger n'a pas eu lieu. J'ai enregistré un premier épisode où je mélangeais beaucoup de métaphores et cet épisode-là, il se situait en fait, c'était une série qui était censée se passer dans le cabinet d'une psychologue et en fait où je serais mon propre personnage en train d'avouer mes secrets les plus sombres à une psychologue. D'ailleurs par la suite j'ai à nouveau sorti la carte psychologique à un moment où j'ai eu un échange avec une éditrice pour faire un livre et où au fond de moi j'avais un peu peur de me lancer dans cette direction et ça a donné les 30 premières pages d'un livre où à nouveau la thématique du psychologue est très présente. Et bien évidemment, cette hyper-complexification où j'ai mis plein de couches supplémentaires aboutit à un rejet de la part de l'éditrice. Donc peut-être un jour aussi, il y aura des archives de ce bouquin avorté, fruit de ma propre capacité à me saboter. Donc je te présente, plusieurs années après avoir sorti ce premier épisode d'un podcast qui n'a jamais vu le jour, Psychologie de la honte, où je raconte une histoire un peu honteuse avec un client. Quand tu rentres dans la salle de cinéma, tu choisis ta place. Il y a des préférences personnelles, ceux qui aiment être au milieu, ceux qui aiment être en hauteur, ceux qui préfèrent se rapprocher de l'écran. Mais en tout cas, moi, je n'ai jamais rencontré personne qui décide d'emblée de se coller à droite ou à gauche. Les gens collés sur les côtés, c'est les personnes qui sont arrivées en retard, qui n'ont pas eu le choix. Dans la salle du cinéma de la vie, les gens ne choisissent pas, ils sont placés au hasard, selon le principe mathématique de la courbe de Gauss. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de place au milieu, et plus on s'éloigne du centre, moins il y a de place. Et ce que cette courbe de Gauss nous dit, c'est que ce n'est ni bien ni mal d'être assis au centre ou sur les côtés, parce que la vie, elle n'est pas projetée en 2D, et qu'on la voit aussi bien quelle que soit notre place. Ce que ça veut dire plutôt, c'est qu'une majorité des gens voient la vie sous un angle quasi identique et qu'à force d'être nombreux, ils pensent que c'est la seule vue qui existe. Et moi, la sexualité, je l'ai vue sous un angle que peu de personnes voient. Sur ce spectre-là, ma place a été à deux extrêmes. J'étais assise au bout de la salle et puis je me suis levée et je suis partie m'asseoir de l'autre côté. Et après avoir vu la sexualité de profil, des deux côtés, je me suis rendu compte que ce que je voyais, moi, ça valait peut-être la peine que je le raconte. Je suis Élie, bienvenue sur mon podcast La chatte de Schrödinger. Dans cet épisode, la place de la honte dans le BDSM est interrogée devant une oreille particulière, celle de ma thérapeute.
Je crois que le BDSM, c'est l'érotisation du désagréable. Vous voyez, on érotise la douleur, la honte, la peur, l'humiliation, que des trucs que les gens n'aiment pas d'habitude. Enfin, on érotise, moi j'érotise rien du tout, hein. C'est les clients qui érotisent ces trucs. Moi, mon job, c'est de construire une séance autour de ça. Je pense que vous, en tant que psy, votre travail, ça va être d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que cette personne, est-ce qu'elle trouve kiffant un truc que personne trouve kiffant. Moi, c'est pas mon job de le comprendre. Après, je me doute un peu, hein, parce qu'à force de bosser, j'ai fini par me rendre compte qu'il y avait des tendances. Ces mecs, par exemple, qui sont super puissants, qui ont plein de thunes, qui passent leur vie à décider de tout et qui vont érotiser le lâcher prise. La perte de pouvoir, quelque chose qui est pas du tout présent dans leur vie, dans lequel ils ont aucune place. Et à l'opposé, j'ai aussi des clients qui sont des gars qui portent sur eux vraiment qu'ils sont féminés toute leur vie, en fait, que c'est des bisous, que c'est des mecs timides. Ils vont érotiser un truc qui les a traumatisés. Je sais pas, moi je trouve le truc le plus difficile, c'est l'érotisation de la honte. L'érotisation de la douleur, j'arrive à le gérer très simplement. Enfin, pour moi, c'est très... Je vais pas dire mécanique. Moi, la honte, j'érotise pas ça du tout. Pour moi, dans ma vie, j'aime pas sentir ça. Et encore moins dans le domaine sexuel. Je crois les moments où j'ai eu le plus honte dans ma sexualité, c'est quand j'étais plus jeune. C'était un regard jugeant sur moi qui me disait que j'étais pas assez, que j'avais pas des seins assez gros, que j'étais jamais assez bien épilée, que j'avais pas la peau assez lisse. À cette époque-là, moi, je croyais que une femme, c'était censé être sexy en toutes circonstances, que j'existais uniquement si j'étais sexy, uniquement si j'étais jolie. Et c'était la pire humiliation qu'un mec me fasse remarquer que je l'étais pas assez. Et après, je me suis dit que j'étais pas d'accord. J'ai fini, parce que j'étais féministe, par m'attaquer à cette croyance qu'une femme n'existe que si elle est belle, que si elle est jolie, que si elle est sexy, que si elle est désirable, et que j'avais le droit d'exister sans ça. Et du coup, j'ai continué à avoir eu des regards jugeants sur mon corps, mais je sentais plus de honte, je sentais de la colère. Bref, c'est peut-être pour ça que j'ai du mal avec cette humiliation des clients, parce que c'est pas quelque chose que je connais moi, le fait d'être excité à l'idée d'être humilié. Chaque fois que j'ai eu des accidents, entre guillemets, au travail, c'était toujours autour de ça. Comme si c'était un truc qui était plus difficile à gérer pour moi. Par exemple, j'ai un client où c'est pas du tout compliqué de gérer. Lui, j'ai fini par me rendre compte que ce qui l'érotisait, c'était la peur. Il me l'a pas dit de suite, hein, et je suis même pas sûre qu'il soit au courant lui-même, mais c'est juste de séance en séance, ça s'est construit comme ça, et j'adore ça parce que c'est un kiff total. J'adore quand j'arrive à trouver un truc où je le fais flipper. Et mon but, c'est toujours de le délivrer à la fin de sa flip, de jamais lui faire trop peur non plus, et de le rassurer, de le rattraper. Ça, j'aime bien. Et je sais pas pourquoi, mais apparemment, je suis douée pour ça. Mais par contre, la honte, ah mon dieu. Il y a 2 semaines, j'ai eu un client, ça m'a vraiment bouleversé ce qui s'est passé. C'est un mec, bah typiquement, ce mec où je vois que c'est un gars qui a été vraiment humilié dans sa vie de façon totalement involontaire. Son érotisation de tout ça, ça s'est ancré là-dedans, dans son expérience passée, dans ses traumas. Je pense que c'est un mec dont on se foutait beaucoup quand il était à l'école. C'est un ingénieur timide. Et lui, il faisait que me dire qu'il voulait que je l'humilie et que je l'humilie vraiment super fort. J'y vais toujours progressivement quand je connais pas la personne, je teste un petit truc, et puis je vois comment la personne réagit, puis j'essaie un peu plus fort. Parce que c'est ça le but en fait, mon but c'est de trouver une limite sur laquelle appuyer. Je sais pas, vous voyez, par exemple, j'imagine que comme beaucoup de gens, vous appréciez pas qu'on s'approche trop près de vous. Il y a une sorte de barrière invisible autour de vous qui se situe plus ou moins loin, suivant le confort qu'on a là-dedans. Et si quelqu'un se met à s'approcher trop près, vous allez vous sentir gêné, puis vous allez essayer de reculer. Et c'est ça que je fais, en fait. J'essaie de trouver où est cette limite, de m'en approcher. Puis quand la personne recule par réflexe, bah, je vais essayer de trouver un moyen de contourner cette limite pour le rattraper, qu'il puisse pas reculer. Et puis pour vraiment le pousser, comme si je le repoussais dans un coin de la pièce et qu'il pouvait plus reculer. Et à ce moment-là, quand la personne ne peut plus reculer et que j'ai bien cerné cette limite, je vais commencer à appuyer dessus, augmenter un peu la pression dessus, pour créer ce truc désagréable. Là, ça fonctionnait pas, parce qu'en fait, j'ai essayé de mettre en place des choses humiliantes, et le gars, c'était comme si ça lui faisait ni chaud ni froid, il était d'une passivité incroyable. Et puis, ça avait pas l'air de lui faire plaisir du tout, quoi. Je sais que c'est pas votre domaine, le BDSM, de ce que vous m'avez dit, donc je veux pas vous choquer inutilement, mais j'ai joué avec plein de trucs. J'ai essayé de lui faire croire que j'avais bandé les yeux et que j'avais invité des gens qui allaient venir assister au truc. Parce que, le regard extérieur, ça peut être un facteur humiliant. Et il était un peu dans le truc de, c'est ce que vous avez décidé. Je me suis dit, ok, bon, j'avais invité personne, enfin, je fais pas ça. Enfin, si la personne m'a pas explicitement dit que c'était un gros kiff, etc., j'expose pas les clients comme ça, c'est important la vie privée. Mais bon, bref, mais je sais pas, je cherchais des trucs. Alors, c'est cliché, mais dans le BDSM, il y a toute l'utilisation de l'anal pour l'humiliation, parce que l'anal, c'est un truc tabou, et du coup, surtout pour les mecs. Et donc, du coup, c'est très cliché, un mec qui veut se faire humilier, il veut qu'on lui foute des trucs dans le cul. Donc je vais tester là-dessus, et puis en fait, le gars, je sens aucune résistance, une passivité totale, mais aucun plaisir non plus, en fait. Il s'est retrouvé à un moment, je me suis dit, je vais chercher des trucs les plus absurdes à lui mettre dans le cul, il s'est retrouvé avec mon parapluie dans le cul, et il se passait rien. Et je me disais, mais là, j'y arrive pas, en fait. Et du coup, je l'ai envoyé prendre une douche, et j'ai pris mes affaires et je me suis barrée. Et ensuite, je lui ai envoyé un texto pour lui demander... qu'est-ce que ça lui faisait de se retrouver tout seul comme un con dans sa chambre d'hôtel? Et il m'a dit qu'il avait eu honte, qu'il s'était senti ridicule, qu'il s'était senti humilié, et qui se sentait très mal, qu'il n'avait pas du tout aimé. Moi, mon but, c'était pas juste de le laisser sur une mauvaise expérience, c'est pas du tout ce que j'aime faire et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Et quelque part, à ce moment-là, c'était un échec et finalement, pas trop, parce que en continuant la discussion avec lui pour qu'il se sente pas seul, c'est important pour moi que ce soit toujours, que je montre que c'est toujours pour de faux, que c'est toujours du jeu, que j'ai pas la réelle intention de nuire, de faire mal, de faire peur, d'humilier, que personne ne se sente pas en danger. En fait, on arrive à la conclusion qu'il avait pas envie d'être humilié, que c'était pas ça qui l'excitait. Que ce qui l'excitait, c'était la posture d'adoration devant des femmes toutes puissantes. Et que l'humiliation, c'était un truc qui, traditionnellement, dans le BDSM, est rattaché à ça, que si la meuf, elle est toute puissante, eh ben, elle peut humilier le mec si elle le veut et que le gars qu'a l'accepté. Mais que c'était pas ça, fondamentalement, qu'il faisait kiffer et, c'était une séance que j'ai trouvée dure. Et pour moi et pour lui. Bon, quelque part, je me dis, c'est cool, hein, qu'on ait réussi à comprendre qu'est-ce qui bloquait, que, en fait, non. La limite sur laquelle fallait appuyer, c'était pas la limite de l'humiliation. Je trouve que c'est pas évident de cerner parce qu'en fait, parfois, on sait même pas où est-ce qu'elle est notre limite. En psychologie, on relie la réponse au désagréable à des réminiscences de l'instinct de survie. Dans la nature, la réponse à une menace doit être rapide. Aussi, dans notre monde moderne, nous répondons à la menace réelle ou supposée avec la même instantanéité, sans passer par le processus mental. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient s'approcher d'une de nos limites, nous n'avons pas besoin d'en avoir conscience pour trouver le moyen de revenir dans notre zone de sécurité. Il y a trois réponses. En anglais, on parle des trois F. Fight, fly, freeze. Se battre, s'enfuir ou s'immobiliser. Face à un adversaire trop puissant, il vaut mieux s'enfuir. Face à un adversaire trop rapide, il vaut mieux ne pas attirer son attention et s'immobiliser. Et en cas désespéré, quand on ne peut pas fuir et qu'il est trop tard pour passer inaperçu, notre instinct de survie nous gonfle à bloc pour défendre notre vie. Ce n'est pas le fruit d'une longue réflexion pour décider de la stratégie la plus adaptée. C'est une décision que notre centre réflexe prend à notre place en une microseconde. Si j'ai remarqué qu'en appuyant sur certaines limites de mes clients, je pouvais les amener dans un monde érotique, j'ai aussi constaté que ce phénomène des 3 F pouvait casser la séance. Si j'appuie doucement sur une limite, ses réflexes se mettent en branle discrètement. Le client ressent d'abord de la gêne. C'est le signe avant-coureur que quelque chose est en train d'essayer d'outrepasser ses limites. C'est le mouvement de ce client qui recule et retient sa respiration si je me rapproche trop, par exemple. Pour instaurer un rapport de domination, je joue beaucoup avec cette sensation pour eux de devenir une proie. Mais c'est un jeu, pas la réalité. Le danger vient de si j'appuie trop fort ou trop brusquement sur une limite, et que le centre réflexe du soumis l'interprète comme un danger réel. La fuite, l'agressivité ou la sidération n'est alors jamais loin. Et quand j'ai passé la séance entière à instaurer l'illusion que je suis un prédateur devant sa proie, je prends le risque que le soumis retourne l'agressivité vers lui. Si au début il se sentait juste gêné, si je ne dose pas l'illusion de la menace, il peut devenir furieux ou honteux. Alors je cartographie ses limites avec patience et progressivité pour éviter l'accident, et j'ai fini par devenir une professionnelle de la gêne. Et ce que j'ai appris, c'est que le sexe est un sujet si tabou, si gênant, qu'une simple conversation peut amener les gens à se sentir eux aussi d'abord gênés, puis fâchés ou honteux. Si j'ai vraiment envie de parler de ce que je vois de mon siège, de cette sexualité que je vois de profil dans ce cinéma du film de la vie, je n'ai ni envie de provoquer de la honte chez des gens qui n'érotisent pas le désagréable, ni de mettre les gens en colère contre moi. Alors j'aimerais que si toi qui écoutes, tu sentes à un moment les signes avant-coureurs de la gêne, que tu laisses les réflexes archaïques te sauver la mise quand ça sera leur tour, et que tu passes au processus conscient. Que tu te poses cette question, sur quelle limite ce que j'entends vient d'appuyer? Est-ce que c'est une limite qui m'est utile, ou est-ce que c'est une limite héritée d'un monde ancien qui n'est plus adapté aujourd'hui? Je ne suis pas là pour vous dire quelle croyance est utile ou non, c'est quelque chose que vous devez décider vous. J'ai décidé un jour que la croyance selon laquelle les femmes devaient être sexy en toutes circonstances ne m'était pas utile, et je l'ai remplacée par cette croyance que j'avais le droit en tant qu'humain d'exister sans impératif esthétique. Cette croyance-là est tout autant bousculée dans cette société que l'ancienne, mais c'en est une que j'ai choisie. Mais vous, docteur, quand je vous parle de BDSM, ça vous gêne ?
Et voilà, on est à la fin de cet épisode. Effectivement, je pense que j'ai bien fait de couper court à la procrastination, à toute cette structure très très lourde, à ces références par rapport aux maths, à la psychologie. C'était un concept qui avait beaucoup beaucoup d'épisodes et donc du coup j'ai allégé tout en disant 5 épisodes, on vire tout le superflu, on vire les maths, on vire la psychologue. Je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à passer le pas. Je voudrais remercier la personne qui a fait le montage de cet épisode de la chatte de Schrödinger, qui est quelqu'un que j'aime. Je voudrais remercier tous mes proches. Chaque fois que je parlais de mon projet, ils me disaient « Oui, mais maintenant, il faut passer à l'action. » Et qui me disaient « Non, mais ça vaut la peine, mais il faut que tu te lances. » Voilà, donc si toi aussi, t'as du mal à passer à l'action quand t'as un projet qui te tient à cœur, je comprends. J'ai été là aussi, et je le suis encore souvent. Le prochain épisode sera un peu plus conventionnel. Et voilà, je t'envoie du love et je te dis à bientôt.